Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما حنفاء ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère et d'établir l'office et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la gêne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur les ondes de la Voix de la République islamique d'Iran en ce vendredi soir, 1er octobre 2021. Merci infiniment d'être fidèle à la radio francophone iranienne. Bienvenue dans le journal. L'Iran lance d'importants exercices militaires dans l'ouest du pays et met en garde en même temps le régime israélien. L'Iran n'accepte rien de plus que l'accord nucléaire dans les négociations nucléaires et n'exige rien de moins que la levée des sanctions prévues dans cet accord, a souligné le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères. La Corée du Nord a testé avec succès un missile anti-aérien récemment développé. Et en Tunisie, le parti Ennahda met en garde contre les conséquences de la formation d'un gouvernement sans légitimité parlementaire. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici le journal. L'exercice militaire Fatahane Khaybar, organisé par la force terrestre de l'armée de la République islamique d'Iran, a commencé ce vendredi 1er octobre dans le nord-ouest de l'Iran. Lors de cet exercice militaire qui a été inauguré en présence du général de brigade Qiomar Seydari, commandant de la force terrestre de l'armée iranienne, l'unité de drones a d'abord mené une mission de reconnaissance à travers tout le champ d'action avant d'en envoyer des images au centre de commandement. Ensuite, la 25e brigade de réaction rapide a héliporté ses forces sur la zone d'opération dans le cadre d'une opération d'assaut. En marge de cette manœuvre, le général de brigade Qiomar Seydari, commandant de la force terrestre de l'armée iranienne, a déclaré que le régime israélien était un élément de déstabilisation dans la région. Tous les agissements du régime sioniste restent sous notre supervision, a-t-il martelé. Nous allons revenir en détail sur ce sujet dans notre commentaire politique. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a souligné de jeudi que l'Europe s'était rangée du côté des États-Unis en violant le plan global d'action conjoint sur le nucléaire de 2015 et a déclaré « L'Iran n'accepte rien de plus que le plan global d'action conjoint, l'accord sur le nucléaire iranien et n'exige rien de moins que la levée des sanctions prévues dans le pacte. » Saïd Khatibzadeh, qui s'est rendu à Paris pour participer au Forum mondial Normandie pour la paix 2021, a accordé une interview exclusive au journal français Le Monde sur le bilan du déplacement du ministre iranien des Affaires étrangères à New York pour participer à l'Assemblée générale des Nations unies et sur les perspectives de pourparlers nucléaires. À la question de savoir que veut dire le très bien bientôt le terme utilisé par le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, à New York pour donner une date pour revenir à la table des négociations nucléaires à Vienne. Khatibzadeh a répondu ce que le ministre iranien des Affaires étrangères a annoncé à New York. Et c'est ce qui a été dit et entendu depuis que le nouveau gouvernement a pris ses fonctions. Il a poursuivi cette réponse comporte deux volets. La première est que l'Iran réfléchit définitivement à la manière de poursuivre les pourparlers. Dès cette étape de la réponse a été terminée, ce que signifie que les pourparlers auront certainement lieu. Et la deuxième phase consiste à examiner attentivement les pourparlers, car le nouveau gouvernement veut en clarifier les dimensions et les détails pour entrer dans les négociations de manière active et efficace. Cette phase n'est pas encore terminée, a précisé le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, avant de faire remarquer le gouvernement en tant qu'organe exécutif a changé en Iran. Il s'agit désormais d'un nouveau gouvernement qui doit négocier. Les Iraniens ont toujours montré qu'ils parlent avec précision et négocient avec rigueur. Et une fois quelque chose réalisé, il l'affiche clairement et il signe quelque chose. Et s'il signe, quelque chose, il l'exécute avec précision, a-t-il souligné encore. En Syrie, des unités de l'armée syrienne sont entrées dans le village de Tassil et ses environs dans la banlieue nord de Deraa et ont commencé à renforcer leur point militaire après l'achèvement du règlement de la situation auprès des personnes armées et rechercher des déserteurs du service militaire et remise d'armes à l'armée syrienne conformément à l'accord de règlement proposé par le pouvoir syrien. La Corée du Nord a testé avec succès dès jeudi un missile anti-aérien récemment développé, a annoncé vendredi l'agence officielle nord-coréenne KCNA quelques heures avant la réunion du Conseil de sécurité prévue pour discuter justement du précédent tir de missile par Pyongyang. La Corée du Nord a testé jeudi 30 septembre un missile anti-aérien récemment développé à quelques heures d'une réunion d'urgence du Conseil de sécurité demandée par Washington, Paris et Londres au sujet de son précédent tir. La République populaire de Corée du Nord a procédé le 30 septembre à un tir d'essai d'un missile anti-aérien qu'elle a récemment développé, a annoncé vendredi l'agence nord-coréenne KCNA. Les performances remarquables de combat du missile ont été vérifiées avec l'introduction de nouvelles technologies clés, se félicite l'agence officielle nord-coréenne. Les États-Unis ont perdu la guerre menée pendant 20 ans en Afghanistan, c'est ce qu'a admis le chef d'état-major américain Mark Milley devant une commission parlementaire un mois après la fin chaotique de l'intervention américaine dans ce pays. Il est clair et évident pour nous tous que la guerre en Afghanistan ne s'est pas terminée dans les terres, mais que nous voulions, avec les talibans au pouvoir à Kaboul, la capitale afghane, a expliqué le général Milley lors d'une audition à la Chambre des représentants. En Tunisie, à l'issue d'une réunion de son bureau et exécutif, le parti Ennahda a mis en garde contre les conséquences de désigner la nouvelle chef de gouvernement en dehors de légitimité constitutionnelle. Bien que le mouvement Ennahda manifeste une pleine appréciation et un respect pour les femmes tunisiennes, saluant leur lutte pour la liberté et l'égalité, il avertit que la nomination d'une première ministre sans être liée par des procédures constitutionnelles et sur la base d'un ordre présidentiel inconstitutionnel avec des pouvoirs formels ne fera qu'amplifier les crises économiques et sociales et n'aide pas à les résoudre, lit-on dans le deuxième point d'un communiqué officiel du bureau exécutif du parti Ennahda. Pour rappel, le président tunisien Kais Saied a annoncé mercredi la désignation de l'universitaire et géologue Najla Bouden pour former un nouveau gouvernement, la première femme à ce poste dans l'histoire de la Tunisie. Et le Conseil de sécurité des Nations Unies a approuvé une nouvelle prolongation technique du mandat de la mission d'appui des Nations Unies en Libye. Les membres du Conseil n'ayant pas pu trouver de consensus sur un renouvellement substantiel du mandat. La résolution 2599 qui a été adoptée à l'unanimité par les 15 membres du Conseil a décidé de proroger le mandat de la MANUL jusqu'au 31 janvier 2022. C'est la fin de notre journal d'information. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Eh bien, restez avec nous. Nous allons vous présenter dans une poignée de secondes notre commentaire politique. L'Iran lance une sévère mise en garde au régime israélien, ce dont nous vous parlerons dans notre commentaire politique. L'exercice militaire Fatehan et Khaybar, organisé par la force terrestre de l'armée de la République islamique d'Iran, a commencé ce vendredi 1er octobre dans le nord-ouest de l'Iran. Cet exercice militaire qui implique les 216e et de 316e brigade de blindés, la 25e brigade, la 11e unité d'artillerie, l'unité de drones, la 433e unité de génie de combat et épaulé par les hélicoptères et de l'aviation de la force terrestre. Lors de cet exercice qui a été inauguré en présence du général de brigade Qumar Seheidari, commandant de la force terrestre de l'armée iranienne, l'unité de drones a d'abord mené une mission de reconnaissance à travers tout le champ d'action avant d'en envoyer les images au centre de commandement. Ensuite, la 25e brigade de réaction rapide à héliporter ses forces sur la zone d'opération dans le cadre d'une opération d'assaut. Plus tard, l'unité d'artillerie a lancé une pré-attaque sur les positions de l'ennemi fictif afin de rendre le terrain propice à une opération qu'ont menée les brigades de blindés. Au cours de toutes les étapes de l'exercice Fatehan et Khaybar, les hélicoptères de l'aviation de la force terrestre ont couvert et soutenu les opérations. En marge de cette manœuvre militaire, le général de brigade Qumar Seheidari a déclaré que le régime israélien a été un élément de déstabilisation dans la région. Tous les agissements du régime sioniste restent sous notre supervision, a-t-il martelé. Pendant les deux derniers siècles, la République islamique d'Iran n'a jamais agressé aucun de ses voisins et tous qu'elle faisait étaient de se défendre, a expliqué le commandant de la force terrestre de l'armée iranienne. Tous les exercices militaires de nos forces armées, soit dans cette région, soit ailleurs, sont menés dans le cadre d'un programme précis et ils nous aident à tester nos armes et équipements et à mettre à l'épreuve l'état de disponibilité de nos forces armées partout à l'intérieur des frontières de la République islamique d'Iran. Le commandant de la force terrestre de l'armée iranienne a continué. Il existe un élément fauteur de troubles dans la région qu'est le régime illégitime sioniste depuis la formation duquel nous avons été sensibilisés à propos de cette frontière. Aucun agissement du régime sioniste dans cette région n'échappe à notre contrôle, a-t-il précisé. Le général Heydari a ajouté que la République islamique d'Iran ne s'était pas encore assurée du retrait des éléments terroristes venus de Syrie, de cette région. Il s'agit d'un sujet délicat pour la République islamique d'Iran. Il faut respecter la frontière légale des pays et l'incapacité d'un pays de protéger sa frontière ne devrait pas permettre à un autre de perturber les démarcations légales avec aide et assistance des étrangers. Ceci n'est pas acceptable pour la République islamique d'Iran, a-t-il souligné. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette émission Le Débat. Le ministre saoudien de l'énergie a exprimé l'inquiétude de son pays, du régime saoudien face au programme nucléaire iranien, face aux activités nucléaires iraniennes. Et cette prise de position d'Arabie saoudite intervient à un moment où il y a eu en fait des informations ces derniers temps concernant les activités nucléaires du régime saoudien, le régime saoudien qui refuse de coopérer pleinement avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, en ce qui concerne en fait son programme, son propre programme nucléaire. S'agissant de l'Iran, l'Iran a eu en fait une coopération, une pleine coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, et encore cette prise de position de Riyad intervient à un moment où les Américains ont annoncé vouloir retirer leur système de missiles Patriot de l'Arabie saoudite, ce qui a, si vous voulez, paniqué en quelque sorte les autorités saoudiennes qui sont allées en juger par des informations qui ont été diffusées par certains médias, sont allées jusqu'à, si vous voulez, commander le système de défense anti-aérien israélien Dôme de fer. C'est-à-dire qu'ils cherchent, les Saoudiens, les responsables saoudiens, cherchent à remplacer les patriotes américains par, en fait, des systèmes de missiles israéliens Dôme de fer, dont l'inefficacité a été prouvée quand même par, si vous voulez, des attaques qui avaient été menées contre l'Arabie saoudite elle-même, et également par la résistance palestinienne contre, si vous voulez, le régime israélien. On va vous en parler dans le cadre de l'émission d'aujourd'hui avec deux invités. J'ai le plaisir d'avoir avec moi pour cette émission depuis Toulouse un spécialiste français des questions internationales, M. Pierre Dortiguier. M. Dortiguier, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, cher M. Nerostine. Bonjour à tous vos auditeurs et à votre invité, bien sûr.
Et l'autre invité de la mission d'aujourd'hui, Monsieur de Dortiguier, c'est un juriste français spécialiste des questions internationales. Il s'agit de Maître André Chamy, qui est avec moi par Skype pour cette émission depuis Alsace. Maître Chamy, bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour, merci à vous et bonjour au professeur Dortiguier.
Maître Deschamy, je viens de lancer le sujet, c'est-à-dire cette récente prise de position du régime saoudien contre l'Iran, cette fois-ci en ce qui concerne en fait les activités nucléaires iraniennes. Comment vous l'expliquez, Maître Deschamy?
Vous savez, les Saoudiens ne savent plus quoi faire. On les appelle, enfin, dans mon langage, je les appelle les danseurs de tango. C'est donner une image un peu humoristique, parce que à tel point de bêtise, on a du mal à garder son sérieux. Les Saoudiens bien tantôt ils veulent renouer avec l'Iran, essayer d'avoir de bons rapports avec ce pays-là, tantôt ils veulent carrément déclarer la guerre mondiale contre l'Iran. Ils financent les activités terroristes pour tenter de déstabiliser ce pays tout en ayant un regard pour savoir s'ils ne peuvent pas être aidés pour sortir du bourbier yéménite et d'autres bourbiers dans lesquels ils se sont mis. L'Arabie Saoudite est aujourd'hui est un pays, moi je l'appelle à la dérive, parce qu'il n'a pas de port d'attache, il ne sait plus où s'accrocher. Avec les Américains, il n'arrive pas à avoir de véritables relations entre de véritables partenaires, parce qu'il est traité comme un subordonné avec l'humiliation infligée par les Américains, tant par Trump que par Biden actuellement. Parce que Biden maintenant ne les calcule plus, comme on dit dans le langage habituel. Et évidemment, leurs relations internationales avec les autres pays ne marchent qu'avec leur chéquier. C'est prouver à quel point eux, ils peuvent avoir le minimum d'estime au regard des pays autres que ceux qu'ils financent. Qu'est-ce qui reste ? Aujourd'hui, ils veulent à ce moment-là bien se faire voir sur la scène internationale. Ils reviennent avec la sauce de l'activité nucléaire iranienne. L'activité nucléaire iranienne est d'abord est une activité civile et sous le contrôle de l'AEA. C'est-à-dire aujourd'hui, s'il y a un seul pays qui respecte les règles de droit international et surtout le traité de non-prolifération des armes nucléaires, c'est bien l'Iran, parce que l'Iran est dans le respect de ses obligations, même si aujourd'hui il en aurait la possibilité, il aurait la possibilité de se débarrasser de ses contraintes, parce que justement cette organisation et les pays qui étaient les garants de l'accord sur le nucléaire iranien n'ont pas respecté leurs obligations, l'Iran aurait pu s'en défaire. Et malgré cela, l'Iran continue de respecter ses obligations. La preuve, c'est les visites constantes et des contrôleurs et des représentants de cette organisation. C'est-à-dire, ce que disent les Saoudiens sur ce terrain-là est totalement stupide. Par contre, les Saoudiens font comprendre qu'eux, ils voudraient acquérir l'arme nucléaire. À ce moment-là, ils ne sont plus dans l'activité civile, ils sont plus dans l'activité nucléaire. Mais bien entendu, comme personne ne leur fait confiance, personne n'a envie de leur fournir ne serait-ce que le moindre atome pour pouvoir développer cette activité-là. La question qui se pose pour l'avenir, c'est qu'est-ce que veulent les Saoudiens ? Parce qu'on connaît la République islamique d'Iran, on sait quels sont ses objectifs et quelles sont ses perspectives, alors que les Saoudiens, avec leur danse de tango, tantôt à gauche, tantôt à droite, nous ne savons pas, moi j'avoue, mon incapacité à lire leurs perspectives, parce qu'ils veulent avoir de bonnes relations avec les Américains, tout en ayant le regard pour essayer de contourner ce que les Américains leur demandent. Ils veulent avoir de bonnes relations avec les Iraniens, mais ils ne veulent pas être un véritable partenaire honnête et solide. C'est la raison pour laquelle ils travaillent aujourd'hui avec l'entité sioniste. Après le scandale sur le système de contrôle des communications Pegasus, maintenant ils veulent s'offrir le dôme de fer israélien, et on a vu dernièrement l'incapacité du dôme de fer à faire face aux attaques multiples auxquelles l'entité sioniste pourrait faire avoir affaire, notamment par rapport à la bande de Gaza. On a vu que c'était juste pas possible, et on a parlé de 30, 40, 50%. C'est une question de pourcentage de missiles ou même des projectiles qui n'auraient pas été interceptés par tout le système antimissile israélien. Alors vous imaginez si l'entité sioniste devait être attaquée de plusieurs fronts, c'est-à-dire c'est l'échec total de ce moyen de défense. Alors si les Saoudiens croient pouvoir souffrir une quelconque protection grâce à cela, alors qu'ils ont déjà le système Patriot américain, ils ont déjà d'autres moyens de défense qui ne remplissent pas leur rôle. La preuve, c'est que les Yéménites arrivent à atteindre la profondeur du territoire territoire israélien, pardon, saoudien, j'ai dit israélien, mais on n'en est pas loin, parce que les Yéménites annoncent même qu'ils pourraient atteindre l'entité sioniste, bah, les Saoudiens ont déjà été touchés, leur système anti-défense, patriote et tout ce qui va avec n'a pas rempli son rôle. Vous imaginez la présence du dôme de fer israélien qui remplirait encore moins ce rôle-là. Mais c'est plus la tentative, pour ne pas dire la tentation, de travailler avec l'entité sioniste qui choque, mais bien entendu qui les met à découvert par rapport à leur velléité de se moquer complètement du monde arabe et bien entendu d'avoir un minimum de relations avec l'entité sioniste au mépris, je dirais, du minimum de loyauté, d'honnêteté et surtout de dignité par rapport à leur population et par rapport au monde qui les entoure. Tout cela par haine pour la République islamique d'Iran et par rapport à l'axe de la résistance. Nous verrons jusqu'où iraient les Saoudiens, mais s'ils continuent dans cette voie-là, c'est pour moi et objectivement en tant que simple observateur de cette partie du monde, pour moi ça annonce tout simplement la fin de l'entité saoudienne et très probablement l'émergence d'un nouveau, d'une nouvelle entité ou identité saoudienne qui marcherait sur les cendres, pour ne pas dire sur les décombres de l'entité d'Ibn Saoud et de la famille régnante actuellement.
Monsieur Pierre Dortillier, télé des Saoudiens, selon Maître Chami, leurs relations internationales ne marchent que grâce à l'or d'échiquier. L'Arabie Saoudite est un pays à la dérive. Les Saoudiens ne savent quoi faire. Et de l'inefficacité du système patriote américain a été prouvée par la résistance yéménite. Celle du dôme de fer a été prouvée par la résistance palestinienne. Il va y avoir l'effondrement du régime saoudien et l'émergence d'une autre identité saoudienne. Ce sont en fait les points qui ont été tout à l'heure évoqués par l'autre invité de l'émission d'aujourd'hui, Maître Chami. Est-ce que votre avis également, M. Dortillier?
En effet, je n'ai pu que suivre, comme tous vos auditeurs, avec grand intérêt, vraiment, en le remerciant, ce qu'a dit Maître Chami. Je pense qu'il faut redire à chaque fois que la structure de l'État saoudien, c'est-à-dire la conservation de la dynastie, a été déjà un point marqué au départ en 1945, j'aime à le redire souvent, lors des accords de Quincy entre Roosevelt, l'amiral Lee et puis le représentant saoudien. Et donc, les États-Unis se sont à l'époque portés garants de la poursuite de la dynastie saoudienne, moyennant bien sûr des avantages que vous connaissez. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une usure de cette politique-là. Et le prince Salman, à notre sens, cherche un nouveau protecteur. Et je crois qu'il a trouvé ce protecteur avec l'entité sioniste, bien sûr. On parle naturellement du dôme de fer, tout ça, en disant qu'il a des impropriétés et autres. Enfin, l'essentiel, c'est surtout de faire admettre pour la dynastie saoudienne à ses propres compatriotes et au monde arabe, disons, une alliance, disons, je ne dis pas un changement, mais un glissement de propriété, voyez-vous. Et donc, pour le faire admettre, je crois qu'il est prêt même à, disons, comme il a fait au début du mois de mai dernier, faire les 12 yeux à chacun, y compris à l'Iran, comme il l'a fait, voyez-vous, en disant qu'il fallait que nous ayons de bonnes relations, des relations spéciales, il a même dit, avec votre pays, avec le grand Iran. Et je crois qu'il faut insister sur la fragilité de la dynastie saoudienne. Maintenant que disons, des initiatives comme qui sont contradictoires, par exemple celle dont je parle, de devoir se rapprocher avec l'Iran, comme ils l'ont fait, ensuite de menacer l'Iran, comme je viens de le faire maintenant, en disant que l'Iran est un danger du point de vue atomique, etc. Tout ceci à notre avis, est pour couvrir, je répète, une alliance profonde qui vient d'être faite avec l'État d'Israël. Et il faut le faire, bien sûr, admettre par les propres pays arabes autour, voyez-vous, à l'opinion également. Je crois que, disons, il y a ce qui est dangereux de la dynastie saoudienne, c'est sa faiblesse originelle qui l'amène justement à chercher des protecteurs. Voyez-vous, il y a un paradoxe dans ce pays. Ce paradoxe, je le dis, il date depuis 1945, il a été ensuite renouvelé, bien sûr, par les engagements américains. Je crois que c'était sur. Il y a cela à peu près, je crois que c'est sous Bush qui a eu le renouvellement de cette alliance. Et je dois dire que c'est un État qui est instable par définition, et donc que ce soit. Dans les dernières conférences, comme à Bagdad, par exemple, il y a eu une conférence où il y avait notre président de la République, à laquelle participait notre président de la République. Il y avait la représentation saoudienne, la représentation iranienne, etc. Et je dois dire que ce qui est le danger, en général, d'un État, c'est sa force, sa puissance. Là, le danger de l'Arabie saoudite, c'est sa faiblesse constitutive. Et je crois qu'il faut en tenir compte comme d'un élément naturel, et disons que cet État, le plus grand ennemi de l'État, finalement, c'est sa propre faiblesse. Voilà exactement ce que... Et il faudrait qu'il y ait, bien sûr, à l'intérieur de l'État saoudien, des forces nouvelles, des forces, disons, plus réalistes, qui prennent conscience, justement, de cette nécessité de changer de régime politique, pas de régime au sens constitutionnel, mais de changer de mentalité, de servilité envers le monde extérieur.
Maître Chami, en fait, l'intéressant, j'ai toujours, en fait, par ces informations diffusées par le média, Maître Chami, en fait, l'Arabie saoudite, son ministre de l'énergie, exprime son inquiétude quant aux activités nucléaires iraniennes. L'Arabie saoudite se met du côté, en fait, des régimes et des puissances qui cherchent à durcir des pressions contre l'Iran, toujours en ce qui concerne ses activités nucléaires, qui sont d'ailleurs pacifiques, venant en fait de le dire tout à l'heure. Mais l'Arabie saoudite se rapproche en même temps, si vous voulez, du régime israélien, qui est en fait le seul régime à détenir l'arme atomique dans la région, à détenir en fait l'arme nucléaire dans la région, à détenir quand même un arsenal nucléaire le plus redoutable dans la région. Comment vraiment peut-on analyser, interpréter une telle, si vous voulez, orientation, je ne sais pas qu'est-ce qu'on doit appeler ça, une telle politique, une telle rhétorique de la part du régime saoudien, Maître Chami. Monsieur Dortiguier, une dernière question, en fait, et selon toujours Maître Chami, les Saoudiens et les Israéliens défendent intégralement des États-Unis et le régime saoudien se trompe fortement de s'appuyer sur le régime israélien parce que, en fait, il ne peut compter ni sur les États-Unis ni sur le régime israélien au jour J. Votre avis, s'il vous plaît.
Mais il est évident que comme nous le disions en faisant référence à ces fameux accords constitutifs de 1945, que les Saoudiens n'ont absolument aucune indépendance politique. Ils ont signé, disons, la dynastie en tout cas a signé son arrêt de mort, si je puis dire, dès 1945, c'est-à-dire qu'elle a fait une aliénation de sa propre liberté en remettant son sort, évidemment, aux Américains, ce moment-là. Alors, les Américains et les Israéliens forment évidemment un seul bloc. Et il est certain aussi que, comme l'a fait remarquer Maître Chami, que la puissance colossale de l'armement atomique israélien qui a été dénoncé, vous le savez, il faut le répéter pour certains de nos auditeurs, par le fameux ingénieur Mordecai Vanunu, qui a fait 18 ans de prison en Israël pour cela, et donc quelques années en état complet de secret, bon, qui a dénoncé justement toute cette puissance qu'il avait vue à Dimona. Bon, tout ceci fait que les Israéliens et les Américains disent aux Saoudiens, si vous voulez qu'on a promis de vous défendre, eh bien, si on vous défend, on vous défendra avec nos propres armes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas, les Israéliens Israéliens n'ont pas, mais pendant les Saoudiens n'ont pas à, disons, à négocier avec les Américains ou avec les Israéliens. Les Américains et Israéliens se proposent toujours d'être les gardiens de l'Arabie Saoudite.
Merci.
La situation ne change pas dès le départ. Et donc, ce qu'il y a, c'est ce qu'on peut espérer, mais moi je ne crois pas que cela soit possible, c'est un changement de politique. Il faudrait à ce moment-là qu'il y ait un changement de structure à l'intérieur de l'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup.
Il faut dire que cette opération de 45, je le répète, elle est ancienne, elle est toujours actuelle, et elle est très dangereuse, elle a été très, très bien menée par les Américains à l'époque, et je dois dire que jusqu'au bout, ceci, que ce soit les Israéliens ou que ce soit les Américains, que ce soit les deux formes finalement de la même puissance économique et financière, eh bien, ils auront toujours le pas sur l'Arabie Saoudite.
Merci beaucoup.
Et tout ce qu'on pourra faire.
Merci infiniment, M. Pierre Dursiguier, philosophe français spécialiste des questions internationales, d'avoir été avec moi pour cette émission depuis Toulouse. Mes vifs remerciements vont également à Maître André Chamy, qui a été avec moi pour cette émission depuis à Alsace. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous souhaite à vous toutes et tous une excellente journée. Je vous dis au revoir, amis, à très bientôt.
Parole d'experts.
Le président russe Vladimir Poutine accueille ce 29 septembre à Sotchi son homologue turc Recep Tayyip Erdogan. Le président Poutine a évoqué les relations parfois difficiles qu'entretiennent Moscou et Ankara, expliquant vouloir trouver des compromis. Parfois, les négociations ne sont pas faciles, mais elles se concluent sur un résultat positif, a-t-il ajouté. Quelles sont les divergences entre Ankara et Moscou ? Erdogan réussira-t-il à maintenir la présence illégale de la Turquie dans le nord syrien ? Arnaud Develay, juriste et analyste politique, nous répond.
Alors, comme vous l'avez souligné, le président Erdogan sera à Moscou d'ici peu pour s'entretenir avec son homologue Vladimir Poutine. Les dossiers sont, si je puis dire, variés, mais on peut penser que le dossier principal dont il sera question dans les échanges sera le dossier syrien. De toute évidence, depuis la visite du président Assad à Moscou il y a deux semaines de cela, la question de la province d'Idlib se pose plus que jamais, puisque toute reconstruction de la Syrie passe avant toute chose, et c'est la priorité maintenant depuis la libération intégrale de la province de Dara, la libération maintenant de Idlib. Cette libération, elle peut se faire de deux façons. Elle peut se faire de la manière douce, ou dans ce contexte-là, et ce sera certainement la dernière opportunité d'Erdogan de se montrer raisonnable, c'est d'arrêter d'armer, d'équiper ses affidés, donc les groupes terroristes qui s'y trouvent, avec des armements visant à attaquer et abattre les avions russes. Donc on parle en cela de missiles portables, missiles sur l'épaule, hein, les MANPAD. On parle aussi de moyens d'attaquer, de contrer les blindés de l'armée arabe syrienne. Donc ça, ce sont les messages qui ont été envoyés par Ankara quand même depuis quelques semaines, avec des convois de l'armée turque elle-même qui s'acheminaient dans la province, tantôt pour délivrer du matériel, tantôt pour renforcer ses positions. Et je pense qu'il est grand temps maintenant que Erdogan réalise qu'il a perdu la partie, qu'il ne peut pas continuer à utiliser ce vivier d'éléments extrémistes pour pouvoir avancer ses politiques néo-ottomanistes à travers tantôt la Méditerranée, tantôt l'Asie mineure. Et lorsque l'on entend le même Erdogan à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies remettre en cause le référendum de Crimée, là je pense que pour Moscou, la ligne rouge est franchie. Hein, c'est quelque chose d'assez significatif. Même si, dans le même temps, puisqu'on est avec le président Erdogan dans la question du « en même temps », aussi cher à Macron d'ailleurs, il a aussi dénoncé le financement des terroristes en Syrie, donc pour les autorités d'Ankara, les terroristes en Syrie ne sont pas les takfiristes, bien sûr, mais selon lui, les Kurdes. Et donc il a dénoncé effectivement le soutien américain aux Kurdes. Difficile donc d'y voir très clair là-dedans. Est-ce que c'est une posture de sa part alors qu'en fait il travaille en tandem avec les Américains pour maintenir la pression sur Damas et empêcher la République arabe syrienne de se reconstruire et de favoriser donc les conditions objectives d'un retour des réfugiés, qui est une partie intégrale de cette reconstruction? Ou est-ce vraiment quelque chose qui s'apparente à un appel du pied à Moscou, selon quoi il souhaiterait pouvoir au moins disposer d'une sortie digne de la Syrie, en laissant entendre auprès de son opinion publique qu'il a mis un terme à la menace terroriste kurde en ayant sécurisé des accords ou des modes opératoires avec Moscou qui permettraient à Ankara de se dire que les attaques contre son territoire par le PKK, par exemple, le PKK, ne seront plus à l'ordre du jour. Visiblement, c'est toute cette configuration qui va être à nouveau remise sur la table. Qui fera certainement l'objet d'intenses pourparlers entre les deux présidents. Mais une chose est certaine, si le résultat de ces négociations et de ces discussions houleuses, à ne pas en douter, puisque le président Poutine lui-même a fait allusion au processus même des négociations qui peuvent être extrêmement compliquées avec Ankara, relations extrêmement compliquées et négociations compliquées elles aussi. Hein. Pourquoi ? Parce que si on ne sait pas exactement où se positionne votre interlocuteur, c'est difficile de savoir sur quel pied danser, et je crois que c'est tout à fait ce qui résume la politique étrangère du président turc. Mais les Russes sont clairs que de toute façon, le principe même de la libération de la province d'Idlib est acquis. Et je pense que cette réunion sera la réunion de la dernière chance pour Erdogan d'éviter une déroute qui lui serait certainement préjudiciable en Turquie et d'essayer d'arriver à un compromis avec Moscou où, moyennant certains arrangements logistiques sur le terrain et une médiation russe, il pourra être acquis et déclaré par Erdogan que la menace terroriste kurde est maintenant écartée. Le seul bémol que j'ajouterais à ça, c'est que Ankara a déjà beaucoup misé sur, j'allais dire, une une politique de néo-ottomanisme affirmée et prononcée dans les territoires du nord de la Syrie. Et ce, depuis quelques années déjà, puisqu'il a opéré essentiellement de telle sorte que les Kurdes qui vivaient dans les enclaves où son armée s'est installée soient amenés à quitter la zone pour se réfugier à l'est du pays. Et il a aussi changé les programmes scolaires. Il a instauré comme monnaie d'échange la livre turque. Est-ce que cela sous-entend qu'il va faire marche arrière et qu'il va abandonner cette politique? Rien n'est moins sûr, puisque c'est quand même le noyau dur de son idéologie. Et c'est la façon dont il s'est toujours défini lui-même. Hein. Non seulement auprès de son opinion publique, mais au sein des puissances étrangères avec qui il fait affaire, ou avec qui il est amené à interagir en tout cas.
L'Arabie saoudite s'adapte aux réalités contemporaines. Riyad semble opérer des changements dans sa politique régionale et internationale. Normalisation envisageable avec l'Iran, des relations montantes avec la Russie et la Chine, les événements en cours démontrent une stratégie qui semble tenter de s'adapter aux règles du monde multipolaire. Mais jusqu'où pourra aller l'Arabie saoudite ? Certains des représentants du royaume saoudien semblent de plus en plus comprendre que l'alliance de longue date avec le monde anglo-saxon et plus particulièrement avec Washington ne représente plus une mise gagnante pour son avenir. Et qu'à l'heure d'un renforcement sans précédent de l'ordre international multipolaire, il serait peut-être temps de s'y adapter au risque de se retrouver dans le camp perdant. Dans le cas relationnel avec l'Iran, l'adversaire régional déclaré de l'État wahhabite, les récentes actions laissent entrevoir une possible normalisation. À ce titre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Saïd Khatibzadeh, a récemment déclaré que les discussions sur les relations bilatérales avancent progressivement. Au cours des derniers mois, nous avons eu des contacts plus ou moins élaborés avec le Royaume d'Arabie Saoudite. Nous avons entamé une série de pourparlers avec le gouvernement saoudien à Bagdad au cours de ces mois, soulignant que les discussions en rapport avec les relations bilatérales et les progrès des pourparlers sur la sécurité de la région du Golfe étaient très fructueux. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a également déclaré que si le gouvernement saoudien accorde une attention sérieuse au message de l'Iran qui considère que la solution aux problèmes de la région demeure en la région elle-même et que nous devons parvenir à un mécanisme régional global, il sera alors possible, à ce moment-là, d'avoir des relations soudées entre les deux pays. Évidemment, si un tel mécanisme devenait réalité, il ne sera pas du goût de Washington ni de Tel Aviv. Et à ce titre, rien n'est encore sûr quant au fait que si Riyad aura le courage d'aller jusqu'au bout d'une telle initiative. D'un autre côté, les Saoudiens comprennent aujourd'hui parfaitement que les tentatives à faire isoler l'Iran constituent indéniablement un échec total pour ses initiateurs. Et les évidences de cet échec ne manquent pas. Syrie, Yémen, montée en force de l'axe de la résistance, probablement la plus grande influence de l'Iran dans les affaires régionales et même au-delà de son histoire contemporaine, formation de l'alliance avec la Chine et la Russie. Cette dernière, d'autant plus renforcée que l'adhésion officielle de la République islamique d'Iran en qualité de membre de plein droit au sein de l'Organisation de coopération de Shanghai, a été pleinement validée. Dans le cas saoudien, s'ajoutent à cela les récents retraits par les USA des batteries de missiles Patriot du territoire saoudien, le nouvel accord de coopération militaire avec la Russie, la coopération économico-énergétique avec la Chine. En bref, des éléments supplémentaires qui confirment un basculement évident dans les affaires du Moyen-Orient. Cela sans oublier le retrait US d'Afghanistan qui, selon nombre de sources, a fortement déplu à plusieurs monarchies du Golfe Persique. Et surtout la manière dont s'est opéré ce retrait, permettant de voir clairement avec quelle facilité Washington peut abandonner ses prétendus alliés. Pour autant, non, il est encore très loin de considérer que l'Arabie saoudite se joindra sous peu à l'axe de la multipolarité. Et rien ne présage un changement de cap dans les plus brefs délais, connaissant l'énorme proximité de Riyad avec Washington. Il n'empêche qu'il y a effectivement de plus en plus de têtes pensantes en territoire saoudien qui comprennent la voie du monde actuel. Et que dans le cadre des processus en cours, il faut déjà commencer à prendre les bonnes dispositions. À défaut de quoi, s'exposer au risque de subir de plein fouet les conséquences d'avoir été parmi les principaux retardataires dans le cadre des réalités qui émanent de l'ordre multipolaire.
Thank you.